J'ai un peu deux options à vous proposer. J'en ai choisi une, mais je vous les soumets à votre conscience. Soit je me contente d'évincer les vraies questions que pose la parole de Dieu avec les vraies paroles qui grattent. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne que moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne que moi. Soit j'évince les questions et on continue avec une homélie agréable. Soit on aborde les questions et on va un peu plus loin. Je préférais aborder la deuxième option, sachant qu'en réalité, la deuxième option, toute notre vie, on va essayer de tendre pour la choisir. Pour le dire autrement, clairement, notre Seigneur parle, comme dans d'autres passages de l'Écriture, du Nouveau Testament par exemple, à des chrétiens adultes, ou des chrétiens qu'il veut qu'ils deviennent adultes. Donc soit on en reste à la petite nourriture derrière l'Épître aux Hébreux, on fait la première option, soit on prend la nourriture consistante, dit ce même Épître, et on va à la deuxième. Donc il faut qu'on aborde la question de la croix, du renoncement à soi, de perdre sa vie. Et si nous allons dans le christianisme adulte, mûr, qui peut se vivre à tous les moments de sa vie, il y a des jeunes qui sont mûrs à 20 ans, Carlo Acutis, il est mûr avant ça, Thérèse de Lisieux, 24 ans, d'autres c'est plus tard, pourvu que la maturité spirituelle se fasse, alors on peut entendre ces paroles. Sinon c'est inentendable, et même on va essayer de les relativiser en pensant encore une spiritualité du bonheur version humaniste et terrestre. Donc on sera mal à l'aise avec ces questions. Mais si on veut vraiment être chrétien adulte, on va tous y passer parce qu'on a été préparé pour ça depuis notre baptême. On est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Le mystère pascal et le mystère de la croix font partie de la vie d'un chrétien. Et si on est vraiment adulte ou si on veut y tendre, on doit même tendre à éduquer ses enfants dans ce mystère. On ne peut pas le détourner. Vous savez, c'est l'expérience du pape François. Il a été malade, je crois qu'il y a des problèmes de poumons assez forts. Il a été malade étant jeune, et les gens venaient le voir en disant « ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Évangile, première option. Puis il y a une sœur qui est venue le voir en disant « ce que tu vis dans le Christ crucifié ». Deuxième option. Et il lui a dit bah, « ça m'a fait beaucoup de bien ». Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc en fait, c'est ça la question du christianisme adulte. Alors, petit bémol, si on veut aborder aussi la deuxième option, c'est pas plus t'en baves, mieux c'est. La croix pour la croix. Il faut que ça fasse mal, et les autres ne sont pas très intéressants, il faut que je quitte père et mère, tout, et c'est le suicide collectif. Ce n'est pas ça que dit le Christ. D'ailleurs, au fond, ce n'est même pas la question de la croix qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va faire un compte à rebours un petit peu, pour voir un peu ce qu'il dit. D'abord, on nous parle d'un prophète Élisée, dans la première lecture, vous avez repéré. On nous parle aussi, vous avez peut-être en vue, le verset avant l'évangile, qui est la première épître de Saint-Pierre, qui nous parle d'une nation sainte, un peuple sacerdotal. Et l'Écriture aussi, dans l'épître paulinien, il nous est dit qu'on est rené au Christ pour une vie nouvelle. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Tout d'abord, l'Ancien Testament, le livre des rois, quand on nous parle d'Élisée, fils spirituel d'Élie, celui qui voulait la double portion de son esprit, qui voulait son manteau, Élisée, donc un prophète, et Élie, on pourrait dire le super prophète, le prophète des prophètes, représenté à la transfiguration. Une femme va l'accueillir chez lui, avec son mari. Elle accueille à travers le prophète la parole de Dieu. Et vous savez, le prophète, c'est celui qui vit une parole tellement brûlante que sa manière de vivre, elle pose question. Il vit un signe de contradiction dans le monde. Il n'est pas selon la logique terrestre, mais la logique céleste. Et Élie, représenté dans la tradition du Carmel, qui se réfère à lui, notre père Saint Élie, avec une épée de feu enflammée, parce que sa parole est comme le glaive enflammé, il tranche. Parole de contemplatif qui a contemplé le mystère de Dieu dans la grotte d'Élie, dans la fine brise aussi, et qui quand en parle, c'est du feu. Donc agir et parole prophétique sont liés au mystère du prophète. C'est vrai pour tout baptisé, puisqu'il est appelé à être prophète de par son baptême. Donc un agir qui pose question, non pas selon le monde, mais selon le ciel. Donc déjà, on est moins dans la première option de la vie confortable ou de la vie bonheur terrestre. Il y a une vie qui sera un peu un aiguillon du poil à gratter qui posera question, un signe de contradiction, comme l'avait annoncé Siméon à la Vierge Marie en présentant son fils. Donc ça, on est appelé à le vivre. Ça, c'est la première étape. On voit bien aussi qu'elle fait tout concourir, cette dame, en convainquant son mari, en se mettant en quatre dans le service. Elle exerce tout ce qu'elle a en main, en avoir, pour servir le porte-parole de la parole de Dieu, le prophète. Ben là, il y a quelque chose de la fonction royale. C'est-à-dire, on accueille la parole et on se met à son service. Très bien. Prophétisme royal. On a aussi la fonction royale de par le baptême. Là, on va monter en maturité spirituelle. Mais ce que parle surtout l'Évangile, parce qu'il parle effectivement d'accueillir la parole de Dieu comme cette dame, c'est-à-dire qui accueillera un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Donc le Seigneur, l'Église a voulu, notre mère, que nous méditions sur le passage d'Élisée. Mais il y a d'autres passages qu'Élisée ou Élie qui se sont produits comme ça. Mais ce n'est pas tout. On nous parle de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous parle d'une nation sainte, une nation sacerdotale. On nous parle en saint Paul d'une vie nouvelle. Ça va plus loin que la fonction prophétique. Ça va plus loin que la fonction royale. En fait, ça va au cœur du cœur du cœur. C'est la fonction sacerdotale. Alors, première annonce, chers amis, vous êtes des prêtres. Et je ne dis pas ça en étant un moderno. Les femmes, les hommes, vous êtes des prêtres. Depuis votre baptême, nous avons un culte à rendre à Dieu. C'est notre fonction sacerdotale. C'est d'ailleurs le cœur de notre foi, en fait. Hein. Ça vient du culte et ça retourne au culte. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en parler. On en parle un peu comme un label. On dit, bon, on a ça un peu dans le diplôme du baptisé, mais on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est que ta vie doit être une offrande. Ta vie, c'est le primat de Dieu sur toi. Tu es fait pour rendre gloire à Dieu. Tu es fait, comme dirait Ignace, pour rendre gloire, révérer, servir ton Seigneur. Et Ignace, dans toutes les prières préparatoires d'exercice spirituel, dira « Que tout mon agir, mes pensées, mon imagination, ma mémoire soient ordonnées au culte à Dieu. » C'est-à-dire, ta vie, elle est faite pour ça. Au fond, c'est ce que font les anges, c'est ce qu'on fait au ciel. C'est-à-dire, au fond, notre vie, elle n'est que référée à la louange de Dieu. Il y a plus grand que ma vie, il y a la vie de Dieu qui passe avant ma vie. Et ma vie, je la perds quand je vis la vie de Dieu, mais je me trouve en vivant pour Dieu. Alors là, ça devient intéressant. La question de la croix n'est pas première. La question de la souffrance n'est pas première. La question, c'est l'amour de Dieu et le culte rendu à sa grande majesté. C'est l'activité sacerdotale. Une vie, elle n'est pas obligée d'être un ministère ordonné de prêtre pour vivre le sacerdoce. Mon agir au quotidien le vit. Je suis appelé à le vivre au quotidien. Et c'est mystérieux, mais le cœur du cœur de la foi chrétienne, nous le savons, c'est le tridium pascal. C'est comme si avant Jésus, dans toute sa vie publique, il parle et il dit des paroles. Et aussi il agit. Il a des gestes prophétiques et il a des paroles prophétiques. Mais à un moment donné, la parole semble se taire. C'est comme si vraiment, de manière éloquente, le Verbe s'était devenu que chair. Chair exposée même. Et chair incarnée dans l'Eucharistie. Et chair ressuscitée à Pâques. Eh bien, le Verbe fait chair vit profondément ce qu'il vit dès le départ de son incarnation, mais là, il le vit de manière maximale. Il vit à fond son sacerdoce, Jésus dans le tridium. Et en fait, le chrétien, il est appelé à vivre à un moment donné le tridium dans sa vie. Pas simplement d'entendre la parole. Et parfois, il peut l'entendre en version première option, pourvu que ça conforte ma vie quotidienne. Non, non, la parole, c'est pour que tu sois un prophète. C'est forcément que ça va un peu piquer, et c'est forcément que ça va aller plus loin que toi, parce que c'est une parole prophétique. Mais ça ne suffit pas. La parole te prépare à l'offrande. Elle est faite pour que tu deviennes offrande, pour que tu rendes un culte à Dieu. C'est pour ça qu'on a la liturgie de la parole avant la liturgie eucharistique. Tout ce qu'on a entendu, ça nous prépare à l'offertoire. C'est Jésus premier prêtre qui s'offre. Mais tout le peuple sacerdotal avec Jésus prêtre s'offre à la Trinité. T'es fait pour être un holocauste. Et donc dans ce cadre-là, on va tous passer à ce qu'on célèbre, la croix, qui est au centre du mystère du culte. C'est pour ça qu'on se signe à chaque prière de la croix, nous rentrons dans le culte. Et que ma vie est appelée, notre vie est appelée à être un culte vivant à Dieu. Et donc on est tous obligés d'y passer, parce que c'est le chemin pour rendre gloire à Dieu. Donc il faut accueillir les croix avec une vision de foi, comme il faut accueillir les prophètes avec une vision de foi, comme il faut tout accueillir à un niveau supérieur, nous dit saint Paul, une vie supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas des côtés heureux et malheureux. Tout est pour le culte à Dieu. Dieu a ordonné ma vie pour que j'accueille dans une offrande tout ce que je vis pour sa plus grande gloire. Heureux et malheureux. Il y a des grâces dans les moments heureux, il y a des grâces dans les moments malheureux. Tout rend gloire à Dieu. Et Montfort nous avertissait, il y en a qui souffrent comme des païens, il y en a qui souffrent comme des chrétiens. L'enjeu n'est pas la souffrance, dit-il, même dans la lettre aux amis de la croix. Il dit véritablement, c'est pour rendre gloire à Dieu. Le verset qui est introductif à l'Évangile, C'est l'épître de Saint-Pierre, un des épîtres de Saint-Pierre qui parle d'un sacerdoce royal du peuple de Dieu. C'est ce qu'on a redécouvert à Vatican II. Ce n'est pas réservé d'abord la fonction sacerdotale aux prêtres. C'est tout le peuple de Dieu qui rend un culte. C'est tout le peuple de Dieu qui s'offre. Qu'est-ce que tu fais quand tu communies? Tu communies à Jésus qui s'offre. D'ailleurs, Jésus nous enseigne toujours ce qu'il fait. C'est-à-dire que, vous voyez, Jésus ne dit pas une parole dure, il dit d'abord une parole d'ambition, une parole d'idéal, une parole d'absolu. Tu es fait pour rendre un culte à mon Père. Tu es fait pour rendre un culte à la Trinité. Et ça passera par l'offrande, ça donc passera aussi par la croix. Quand tu reçois Jésus qui s'est offert. Jésus immolé, Jésus crucifié à l'hostie. Jésus prêtre dans l'hostie. Mais quand tu communies, ce n'est pas simplement pour continuer la vie de la première option. C'est pour que tu deviennes une offrande. Tu communies à l'hostie pour devenir hostie. Et c'est ça. Et quand le prêtre, l'enfant de cœur, va encenser dans l'assemblée, c'est pour qu'elle soit l'offerte. C'est les offrandes. Pourtant, je me suis dit, est-ce que c'est pour que les gens sentent bon? Ou alors, est-ce que je me suis dit, parce qu'ils sont un peu jaloux avec les prêtres, il faut faire un peu de l'égalité, il faut que les gens ils en aient un peu aussi pour leur compte. Pas du tout. On encense les futures offrandes. Ceux qui s'offrent en holocauste dans leur quotidien pour rendre un culte à Dieu, dans l'unique sacrifice du Christ grand prêtre. Donc on va tous passer par la croix, puisque c'est l'immolation. Et donc, en fait, on est appelé à ça. Alors attention, c'est pas plus t'en baves, mieux c'est. Parce que c'est pas... Montfort, lui, quand il n'avait pas de croix, il disait « Quelle croix, il n'y a pas de croix ?» Et ça, c'est encore autre chose, c'est la croix du missionnaire. Mais la croix, c'est pas plus t'en as, tu ne la choisis pas d'ailleurs, la croix. Elle t'est donnée. Dieu a taillé à proportion, avec une délicatesse, avec un discernement, ce qui est bon pour ton offrande, ce qui est bon pour ton immolation. Mais tu dois l'accueillir, tu ne dois pas le refuser. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Nous le disons à la confirmation. Normalement, un confirmé vit à fond sa fonction sacerdotale. Ce n'est pas que la mission, c'est le culte, d'abord. Et c'est vrai encore quand on appelle quelqu'un. « Me voici, Seigneur, je viens être offert. » C'est d'ailleurs ce que dit Jésus dans l'Épître aux Hébreux. « Me voici, Père, je viens faire ta volonté. » Donc on comprend à ce moment-là que ces paroles sont profondes et qu'on va tous les vivre. Et encore une fois, soit on parle en première option et on évince ce mystère de l'offrande, du sacerdoce, du culte, de l'acceptation que tout est grâce, et nous retiendrons que les moments heureux, et donc nous évincerons, au mieux on garde un peu d'Élysée, et à ce moment-là un peu de prophète, mais pourvu que ça va dans notre sens, ou alors on accepte la contradiction qui va jusqu'à la croix, et on voit que derrière la croix, c'est pas la croix pour la croix, mais c'est le culte à la Trinité qui rend gloire à Dieu, et il y a des âmes qui sont mûres, des hosties vivantes. Alors là, ça a une valeur. Et c'est ce que propose aujourd'hui le Seigneur, dans son ambition de grand pédagogue. Il veut que chacun, on devienne adulte. Et donc notre éducation, on devrait dire « Mon fils, ma fille, tu dois être une offrande. Mon fils, ma fille, tu te prépares au culte. Ta vie doit être un culte. Ta vie, ce n'est pas toi d'abord. Tu trouveras ta joie quand tu perdras ta vie. Pour les autres. Et d'abord pour Dieu. » Ça, c'est la grande éducation chrétienne. C'est la grande éducation sacerdotale. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.